Et bonjour, il est 13h sur Radio Quetch et nous allons découvrir le troisième et dernier épisode du documentaire radio Messi en danse, réalisé par Julien Mondon, accompagné de Lorraine Toulin. Nous avons écouté les deux premiers épisodes durant ce festival. Nous sommes au Hamon de Morimont, le festival Brock Swing. Ouvre ses portes pour le dernier jour aujourd'hui. Il a donc démarré samedi, dimanche, aujourd'hui toute la journée. Nous avons encore un spectacle de la Grande Criée qui va démarrer à 14h, puis un concert live des Octopussies que nous avons eu le plaisir d'écouter en direct live hier soir sur Radio Quetch. Je vous laisse donc avec ce dernier épisode nommé « Des rôles et des genres ». Je vous laisse à tout à l'heure.
Mais si on danse, un documentaire écrit et réalisé par Julien Mondon, accompagné de Lorraine Toulin. Troisième épisode, des rôles et des genres. Ce documentaire est né de l'envie de questionner notre rapport à la danse de couple, à son intimité. Cette danse à deux que vient toucher notre rapport au corps, à l'émotion, à l'autre. Pourquoi dansons-nous? Est-ce le besoin d'avoir une place privilégiée au sein d'une communauté? D'aimer et d'être aimé en retour? De lâcher prise? De se sentir vivant? Dans les épisodes précédents, nous découvrions que la danse est un tourbillon des sens et peut être une vraie communion avec l'autre. Elle peut être un acte d'amour, l'espace d'un morceau. Et donc les émotions ressenties dans un bal peuvent être déroutantes et interrogent notre rapport au plaisir, à la séduction et au couple. Cet épisode sera l'occasion de questionner nos façons d'inviter quelqu'un à danser. Qui invitons-nous et comment s'y prend-on? Comment une approche peut-elle conditionner le moment partagé? Est-ce que tout se joue à ce premier contact au point de décider si nous acceptons ou déclinons l'invitation?
Je dissocie vraiment la danse des rapports amoureux. Ouais. Il y a des rencontres qui peuvent se faire dans le contexte de la danse, comme on rencontrerait des gens, des collègues de boulot. Ce que j'ai aimé dans l'Indie Hop, c'est qu'il n'y avait pas forcément cette hyper-sexualisation de la danse. Bien évidemment, moi je peux dire « Ah ouais, bah, y a un tel qui me plaît, que je trouve séduisante, etc. » Mais c'est tout, quoi. Pour moi, c'était un espèce de challenge, en fait, de danser à deux, parce que je pense que j'étais plus prêt à danser seul, comme ça. Mais pour moi, c'était un peu pour sortir de cette bulle, en fait, être un peu dans un autre partage de la danse, en fait.
J'ai expérimenté, en fait, jusqu'où on pouvait aller dans la danse, jusqu'où on pouvait interpréter. En essayant et en pensant être à l'écoute de la personne et qu'en fait on influe tellement que les personnes n'osent pas forcément dire non et on peut interpréter, donc c'est ultra subtil.
Ça t'est arrivé d'avoir une érection en dansant?
Honnêtement, c'est ça que j'ai expérimenté, mais en fait c'est des émotions, donc voilà, ça se traduit de cette façon là faut arrêter de mettre le mal partout, j'ai envie de dire. Tu t'adaptes ta danse, enfin tu le fais pas ressentir, mais ça m'est arrivé de l'expérimenter, à le faire à ce que ça se ressente et que là, et qu'il y a quand même un jeu. Alors c'est là la dangerosité des choses, c'est que tu peux croire que ça passe mais qu'en fait la personne elle ose pas dire non, et maintenant je me connais dans la danse et je vais pas jusqu'à la sensualité de la personne, en fait. C'est pour ça que je danse aussi avec les garçons. Je peux comprendre ce que c'est le contact avec un homme aussi. Gérer les émotions, on va dire, l'érection, c'est rare après. Enfin, c'est dur de prendre conscience de ça. Et c'est un sujet qui, pour moi, existe. Et on en parle très peu. C'est dur d'en parler.
Moi, j'ai l'impression que quand j'ai commencé la danse, j'avais beaucoup moins de filtres. J'étais peut-être plus léger sur ces questions-là. Peut-être que j'avais... Ouais, j'étais vachement plus...
Serein.
Ouais, serein sur ce qui pouvait se passer sur le dance floor et sur le rapport à l'autre. Je me mettais beaucoup moins de voile et je me fermais beaucoup moins de portes. Et puis finalement, l'enchaînement des expériences fait que tu reconsidères la façon de danser, ce que ça peut porter la danse.
C'était dans une boîte très tôt le matin. C'était des filles qui se faisaient emmerder en plus. Hein. Il y a des gars qui cherchaient à danser avec elles, de se rapprocher, etc. Et moi, je dansais un peu indépendamment, donc elles sont venues, on s'est amusé. Et en fait, il y en a une, franchement, à un moment, elle a pris ma main, elle l'a mise sur son sein, quoi. Et j'ai pas compris, quoi.
Je suis pas là-dedans du tout, je suis pas dans cette énergie-là. Je trouvais que c'était... Il y a eu une mauvaise interprétation, en fait, on s'était pas compris. Donc voilà, et c'était juste que, de base, ouais, le dance floor est un lieu de drague aussi. Donc, et moi, c'est vrai que, innocemment... avec beaucoup de candeur, je vais danser bêtement, hein, voilà. Et effectivement, après, bah, je fais le mec surpris. Oh bah tiens, je me fais draguer, qu'est-ce que c'est chiant.
En tango, on ne se regarde pas la plupart du temps. Puisque celui qui est guidé a les yeux fermés. Surtout lorsqu'on est serré l'un contre l'autre. Donc il y a des danseurs qui profitent largement pour ploter les danseuses qui se posent la question pendant ce temps-là. Mais pourquoi fait-il donc ça? Et que vais-je faire? Et que vais-je dire? Est-ce que je vais en parler à la personne? Est-ce que je vais en parler autour de moi? Est-ce que je vais en parler à mes copines danseuses?
Je dansais dans une asso où ils ont publié une charte sur... le consentement, sur les limites de respect qu'on doit avoir par rapport aux autres personnes. Et ça m'a un peu choquée quand je l'ai lu au début, parce que je me suis vraiment dit, on est obligé de l'écrire pour que les gens le comprennent et le sachent. Enfin, c'est bizarre, quoi.
Code de conduite. Danser à deux ou plus est une activité sociale, dans laquelle la connexion physique et parfois émotionnelle est une composante importante. En tant qu'association, nous avons la responsabilité, avec votre implication à toutes et à tous, de créer un espace où, danse après danse, nous pouvons expérimenter, en sécurité, de l'intimité. En bref, un espace dans lequel la notion de consentement est primordiale. Je sais qu'en aucun cas je ne suis autorisée à toucher ma ou mon partenaire sur la poitrine, les fesses, le ventre, le visage, ou à l'embrasser avant, pendant ou après une danse sans son consentement verbal explicite. Et ce, quels que soient les signaux que je pense percevoir ou mon état émotionnel du moment. Être attiré par une personne avec qui on a partagé une danse n'est pas anormal, mais je suis conscient, consciente, que l'endroit le plus approprié pour m'assurer d'une attirance mutuelle et obtenir le consentement verbal de toucher, d'embrasser, n'est pas la piste de danse. Je m'assure du consentement de la personne avant de faire quoi que ce soit sur la piste de danse ou en dehors. Je formule ma demande de façon claire, verbale ou non-verbale. L'équipe organisatrice interviendra auprès de quiconque fera preuve d'un comportement contraire au code de conduite ou à son esprit et se réserve le droit de prendre la ou les mesures jugées appropriées, ceci incluant un bannissement temporaire ou définitif.
On ne prendrait pas un inconnu à bras-le-corps, la tête posée contre son front, son menton, la poitrine pressée contre la poitrine. Par exemple, dans la charte sur le consentement, il est écrit qu'on ne doit pas toucher le ventre. J'avais lu dans un... Je pense que c'est peut-être une version précédente où il était précisé on ne touche pas l'estomac. Et je me suis beaucoup posé la question. Pourquoi ne pas poser sa main sur l'estomac, mais le bas du ventre, on pourrait... En fait, je me suis rendu compte que l'estomac, c'était proche de la poitrine. Et je me suis rendu compte aussi que moi, je ne faisais pas attention quand je faisais danser des danseuses. J'ai parfois la main qui glisse sur le ventre, le dos et le ventre. Et je me dis, et si j'étais un homme, comment ça serait perçu? Mais là encore, tout dépend de la façon dont on pose la main sur l'autre. J'ai l'impression qu'il y a quand même une intentionnalité qui fait toute la différence. Si c'est quelqu'un de pervers, dans le sens qu'il souhaite cacher, profiter de l'autre pour son propre compte et au détriment de l'autre, j'ai quelques exemples. Oui, de gens qui sont devenus performants au niveau technique, ce qui permet d'avoir un panel plus important de victimes. D'ailleurs, régulièrement, de temps en temps, il y a quand même des choses qui éclatent. Comme dans le swing l'année dernière ou il y a 2 ans. Les deux profs qui ont agressé plusieurs femmes.
C'est pas la première histoire qui sort. Hein. Et c'est toujours lié à un rapport des forces et des pouvoirs. Ce sont les types de sujets qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas qu'on aborde parce que ça, c'est pas agréable et parce que ça nuit l'ambiance joyeuse du swing. Ça fait partie de la réalité et il faut en parler, que ce ne soit pas un tabou. Ça nous rappelle que la problématique, elle est partout, qu'on ne peut pas s'échapper juste parce qu'on est dans les milieux de la danse et qu'on aime beaucoup les swings et que c'est une danse joyeuse, la musique est joyeuse et que wow, Hollywood, yeah, tout va bien, no.
J'ai jamais vraiment eu de problème en soirée. Il y a eu des situations un peu troubles ou ambiguës ou des trucs qui ne m'ont pas forcément plu ou qui m'ont posé question. Des bisous sur la joue à la fin d'une danse de certains danseurs qui ont deux fois mon âge et où je me dis mais bon, a priori il n'y a pas d'ambiguïté, ça fait peut-être des mois ou des années que je danse avec eux, je connais même des fois leurs copines, enfin voilà, donc mais où du coup il y a une espèce de proximité ou de je sais pas, de familiarité qui s'installe que j'ai pas demandé, que j'ai pas lancé, que l'autre personne s'octroie un peu, qui dépasse un peu mes limites à moi ou les limites en général qu'on peut avoir, que j'ai laissé passer mais qui m'ont laissé une petite dose de doute ou de bon, alors faut peut-être faire gaffe parce qu'avec ces gens-là, ou des réflexions, des remarques. J'ai un danseur que je connais depuis 10 ans. Je sais qu'il ne se passera jamais rien, enfin, il n'y a aucun souci. Et puis, il est marié, il a des enfants, il est beaucoup plus âgé que moi. Je pense qu'il n'y a vraiment aucune ambiguïté. Mais depuis des années, il me fait des compliments à chaque fois qu'on danse. Il va te complimenter sur tes vêtements, sur un mouvement que tu vas faire un peu plus sexy. Justement, il va faire « Ah, waouh, c'est joli !» Donc oui, avec ces danseurs-là, je vais peut-être moi-même instinctivement danser de manière plus neutre pour être sûr, vraiment sûr, que cette ambiguïté là ou ces paroles là elles aillent pas plus loin.
C'est assez rare que de se voir à l'extérieur de la danse sans qu'il y ait une connotation de drague, donc en général je dis non. Il y a des personnes avec qui je n'ai pas du tout envie de danser parce que j'ai déjà dansé avec eux et je sens quelque chose de libidineux. Les gens se servent. Ça, c'est le mauvais côté.
Ma prof de tango, elle me disait que si elle dansait avec un danseur qui a beaucoup moins d'expérience, un danseur débutant, que tout ce qu'elle donnait à travers la danse, c'était tellement intense que ça effrayait en fait la personne, que généralement, ils n'étaient pas capables d'affronter l'énergie et l'intensité qu'elle allait mettre dans la danse, et que du coup elle faisait exprès de se restreindre et aussi pour pas induire en erreur sur le pourquoi du comment.
Ça a complètement changé mon rapport amoureux, le tango, mon rapport amoureux et mon rapport sexuel. Pour le coup, j'avais moins besoin de baiser, j'ai moins besoin de baiser, j'ai plus besoin d'être en amour avec la personne avec qui j'échange mon intimité. Mais en même temps, je vis sur la piste des intimités aussi extrêmement fortes, extrêmement puissantes, sans avoir besoin de mettre mon sexe dans le sexe de l'autre, quoi. Donc, c'est des niveaux, mais et à choisir. Je ne sais pas si tu me dirais qu'est-ce que tu préférais si tu pouvais ne plus baiser et faire que danser. Qu'est-ce que tu ferais ? Ben, j'hésiterais. Enfin, je pense que c'est compliqué la question. Enfin, je pourrais te dire danser, hein, aussi. Ça me dérangerait pas. C'est la même chose en fait. C'est la même intimité, mais ça n'a pas la même forme. Et on ne peut pas danser si on n'est pas capable de mettre ça en jeu. Ce n'est pas possible. On fait de la gym.
L'idée que dans la danse, il y ait forcément une notion de désir, moi, je comprends l'idée. Il y a déjà des danseurs qui m'ont dit, notamment, moi, je ne pourrais pas danser avec un autre homme parce que même si je sais que je ne vais pas draguer chacune de mes partenaires de danse, il y a toujours cette idée de désir et je ne serais pas capable de l'avoir avec un homme. Je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai. Il y a une sensualité qui est partagée dans la danse, mais c'est pas sexuel pour moi. Donc du coup, c'est pas lié à une attirance. Moi, j'ai pas de désir du tout pour mes partenaires de danse, ils sont beaucoup trop vieux pour moi. Et donc du coup, je me retrouve pas du tout là-dedans. La connexion au corps, en fait, elle est que par le prisme de notre vie normale. Donc en fait, qu'on prend pas dans les bras, en fait, dans les bras, dans la vie réelle, on serre nos parents dans nos bras. Ça dépasse rarement 5 secondes, hein, on est bien d'accord. Et éventuellement nos amis. Et le seul rapport corporel prolongé qu'on a, c'est celui de la sexualité. On voit que par ce prisme-là, parce qu'on ne sait pas que ça peut exister autrement.
Il y a aussi des femmes qui ont la main baladeuse. Moi-même, dans ma façon de danser, je sais que je peux gêner. Ça m'est déjà arrivé de sentir que l'autre avait besoin de plus de distance. Par exemple, lorsque je dansais la valse, on est collé par la hanche. Donc c'est proche du sexe. Et moi, ayant fait de la compétition, je suis habituée à ce contact immédiat. Je me positionne et je me positionne tout de suite en contact. Et donc, en balle, je me suis rendu compte qu'il y avait des hommes qui étaient agressés par ce contact immédiat et comme si je les agressais. Ils se sentaient, donc ils avaient besoin de se reculer immédiatement. Et donc, ce n'est pas une mauvaise intention de ma part. Donc, c'est pour ça aussi que je me pose d'abord la question, quelle intention a la personne qui danse avec moi ? Et je me base la puce à la sensation que j'en ai, aux différentes sensations qui s'imbriquent les unes dans les autres au fil de ma danse avec cette personne. Quand c'est subtil, hein, parce que si c'est direct, là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais c'est plutôt rare, les gens qui sont directs. En général, c'est plus subtil, c'est plus tâter le terrain. Le fait que même si on ressent que l'autre est en train de kiffer absolument, ça ne veut pas dire qu'il a envie de passer à l'acte après. J'en suis un parfait exemple. Donc le fait de pouvoir en parler ouvertement, pas que dans la danse, mais même dans sa vie de tous les jours, on a besoin d'apprendre à parler ouvertement de nos désirs et de notre intimité. C'est une conception récente. Donc peut-être que certains milieux de danse, là, comme le blues à Paris, c'est un précurseur. J'espère que ça va prendre de l'ampleur.
Avant, j'aurais pas trop remué, je sais pas, mes fesses en me disant « Oh là là, celles qui font ça, on a l'impression que c'est forcément pour draguer ou pour être sexy ou ce que je peux reprocher à des personnes qui vont danser de la salsa ou des trucs où j'ai l'impression qu'il faut être ultra féminine pour que ça fasse beau. » J'allais peut-être un peu m'empêcher de faire ça avant pour être sûre que ça montre bien que je suis en train de danser, que c'est pas de la drague. Et là, comme il y a cette charte-là, ou comme je sais que les gens ont vraiment mis les limites là-dessus, ils en ont vraiment parlé, ils le disent à chaque fois... je me dis, en fait, je peux peut-être me lâcher, finalement. Je peux peut-être faire un truc que je pense joli et sexy, mais où, en fait, je sais que c'est pas grave parce que, en fait, on est là, dans cet espace-là, pour se lâcher là-dessus. Et je pense que ça me fait énormément de bien et que ça aide à être en accord avec son corps.
J'en ai rien à foutre de leur code de conduite, en fait. Si j'aime le blues, je fais danser le blues. Après, c'est le mec qui a un problème, il vient me voir, on discute, quoi. Et la nana, on peut discuter avec elle aussi, quoi. Parce qu'elle est aussi responsable de ce que je fais avec elle. C'est pas juste l'homme, il est agressif et la femme, elle est soumise. Donc, je suis attentive à mon état physique et émotionnel et à celui des autres. Pourquoi attentive ? Pourquoi là, ils mettent le féminin comme ça ? Si je me rends compte que je ne me sens pas à l'aise durant une danse, je peux demander plus d'espace, plus de légèreté ou quoi que ce soit qui rendrait la danse meilleure. Non, 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 ma fille. Tu peux pas faire ça. Parce que si tu fais ça, c'est-à-dire que tu penses que le monde il est à ton service et tu peux le transformer comme tu veux. Non, le monde, tu le subis aussi. Ben, c'est ça aussi, faire avec le monde. C'est le subir et apprendre à faire avec, ou pas. Enfin, c'est mal écrit, c'est mal pensé, c'est trop directif. Enfin, ça, c'est, on n'est pas dans l'humanité de la, on n'est pas dans la danse, là. On est dans un truc pragmatique.
Je pense qu'au soirée tango, on pourrait l'afficher en très gros, je pense. Pour ce que les gens se permettent de faire, le toucher ou les paroles, il y a des choses qui sont complètement... qui sont vraiment déplacées, je pense. La main du garçon ou le bras qui reste autour de la taille pour te raccompagner alors qu'il n'y a pas besoin.
Alors moi, c'est ce que je fais. Mais je ne garde pas, alors, je garde pas la main sur la taille quand je ne la connais pas. Quand c'est une fille que je connais, oui. Enfin, ça, c'est un truc entre nous. Mais en général, je la raccompagne par la main. Parce que quand tu finis une danse de l'autre côté de la piste, donc à 30 mètres de là où la nana était assise, et que toi tu finis avec elle, et que chacun part de son côté, comme s'il ne s'était rien passé, moi ça me rend fou. T'as dansé ou t'as pas dansé ? Donc si tu danses, tu ramènes la personne, c'est pas que toi tu la ramènes, elle aussi elle te ramène. Il est où le problème ? Tu l'as guidée pendant 10 minutes, 30 secondes, tu la ramènes au bout de la piste, tu peux pas le faire ? Après, elle peut lui enlever la main, hein. Enfin, c'était pas un bout de chamallow, quoi. Elle est responsable de son corps. Donc si le bras la chaîne, elle la prend, excuse-moi, mais on a fini de danser là. Une main au cul, c'est pareil, quoi. Je veux dire, attends, c'est-à-dire que les nanas, ça sont grandes, hein. Je veux dire, la fille doit lui exprimer gentiment le fait qu'il n'a pas à le faire. Si ça lui fait pas plaisir. Maintenant, si ça lui fait plaisir, Fais-toi mettre la main en face. Ah oui, mais moi, je suis débutante, je ne savais pas trop si je pouvais ou pas. Et ne te prends pas pour une débutante en faisant passer ce truc de débutante. Si tu as envie de te faire mettre la main aux fesses, tu te fais mettre la main aux fesses, mais pas sur la piste, s'il te plaît. Pas quand je danse, que j'ai pas envie de voir ça.
On serait dans une société du consentement. Je serais d'accord avec ce postulat de dire chacun sa responsabilité sur ses limites et voilà. Donc oui, je serais d'accord avec le fait qu'on puisse dire moi je sais ce que je veux, ce que je veux pas, toi tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas, on a qu'à se demander des choses à des moments, puis à des moments on a qu'à se proposer des choses juste corporellement, et puis on pourra les refuser si ça nous va pas, etc. Pourquoi pas, c'est plutôt cool. On n'est pas dans une société de consentement, on est dans une société dans laquelle il y a énormément d'agressions sexuelles, de viols, et dans laquelle, manifestement, les garçons sont vraiment fort fort éduqués à aller séduire, aller draguer, pousser le consentement, etc. Je pense qu'une des anecdotes les plus parlantes là-dessus, c'est comment on parle aux petits garçons et aux petites filles sur comment, quand les garçons sont agressifs avec des petites filles, on leur dit « Ah, mais c'est parce qu'ils t'aiment bien ». Il a envie de te draguer. Quand je dis agressif, c'est agressif. C'est-à-dire vraiment un garçon qui embête une fille, qui lui tire les cheveux, qui la pousse, qui est vraiment dans des trucs comme ça. Assez plus globalement, on apprend assez mal aux gens à sentir les limites, à sentir quand on veut ou quand on veut pas quelque chose, à simplement proposer les choses et recevoir un non. Je pense que ça, c'est assez global, que recevoir un non, pour plein de gens, c'est vexant. Alors qu'en fait, ça devrait être juste... La personne m'a dit non, ça veut dire non maintenant, quoi. Ça veut pas dire dans deux autres balles, je repropose de danser, la personne va me redire non. C'est juste, c'est pas non plus une négation de moi-même, c'est pas non plus je suis un être humain qu'il faut jeter, ou voilà, c'est juste un non, quoi. Non, j'ai pas envie de danser avec toi maintenant. Non, je veux pas que tu mettes ta main sur mes fesses. Non, je veux pas, voilà. Et je pense qu'on n'est pas non plus éduqué à dire simplement ce qu'on a envie qu'il se passe.
C'est la polka, je la veux danser dans tes bras, je la veux danser tout de suite, je la veux danser toute cuite, je veux danser la polka, même si je sais pas le pas, je la veux danser, c'est fou, je la veux danser toute sous, même si je suis pas la cadence, je veux entrer dans la danse, je pourrais danser n'importe quoi, tant que c'est avec toi. Je sais j'ai mes gros sabots, oui mais je porte le chapeau. Et si je tiens pas debout, je la danserai à ton cou. Même si je suis pas sur la liste, je veux entrer sur la piste. Je veux danser la polka, 1, 2, 3, on y va. Oui, mais non, pas avec Riton, qu'on veut qu'un minichon. Oui, mais non, pas avec Gilou, qu'on veut qu'à mes dessous. Je veux pas bailar la bamba, je veux danser la polka. C'est pourtant pas compliqué, tu pourrais bien...
Donc apprendre à dire non, c'est une partie assez importante ici en tant que femme. Et donc forcément, il y a une situation d'inconfort. Parce que on sait que... On casse les expectatives de l'autre personne. On a peur des frustrations ou des colères ou quoi que ce soit. Donc, dire non, c'est parfois un acte qui est déjà rebelle. Mais bon, d'après mon expérience, c'est quelque chose qu'on apprend au cours de la vie.
Oui. Mais non. Avec Jean-Pierre, qu'on veut qu'à mon derrière. Oui, mais non, pas avec son pote, qu'on veut qu'à ma culotte.
En tant que danseur, sur quels critères je pourrais choisir une partenaire que je ne connais pas? Donc uniquement visuel, sa posture, sa... Alors je pense qu'il doit y avoir certainement des phéromones hein, qui doivent arriver jusqu'à moi. Donc il y a les phéromones, il y a la couleur de ses cheveux, il y a comment je l'ai vu danser peut-être, sa musicalité. C'est pas juste la taille de ses seins, ça peut jouer, mais c'est pas que ça. Moi j'ai une technique, c'est que je me laisse inviter, aujourd'hui. alors qu'avant j'invitais, maintenant je ne l'invite pratiquement plus. Je me laisse inviter pour voir aussi le désir de l'autre.
Les premières soirées que j'ai faites, c'était pas possible pour moi d'inviter. Parce que je me suis dit, bah déjà, bon, t'es débutante, donc tu vas pas aller faire chier les autres. Et parce que on restait dans ce truc de c'est les leaders qui invitent, etc. Puis aussi dans un truc de. Pas de séduction, mais de se dire. Si on m'invite, c'est forcément que je plais. Enfin, il y avait aussi un rapport à ça qui était plutôt ambigu. Et donc, bah, si l'autre m'accepte et vient me chercher, ça veut dire que c'est sûr qu'on va passer un bon moment parce que avant même qu'il me voit en mouvement, qu'il me rencontre, il m'a accepté. Dans une espèce de truc hyper rassurant de se dire, bah, on va pouvoir danser parce qu'en fait, c'est déjà fait. Enfin, quelque chose qui est déjà fait, quoi.
Communément, depuis des siècles et des siècles, le rôle de leader est effectué par l'homme et follow la femme. On explique ça de manière assez... On ne s'attarde pas trop, quoi. On dit, bon alors, leader, ben, en gros, c'est les cavaliers et follow, c'est les cavalières. Ah, ok.
Dans la façon dont les danses, elles sont transmises, je pense que ce n'est pas malveillant de la part des gens de dire les hommes font ça, les femmes font ça, les hommes mettent ses mains de cette façon, les femmes de cette façon, etc. Je pense que les gens pensent pas mal, mais de fait, ce que ça génère, en fait, c'est de l'hétéronormativité formelle. Et en fait, ça implique que pour sortir de ça, en fait, on est formellement en opposition avec la façon dont c'est transmis. Qu'on le veuille ou pas, en fait. On entend parfois dire « rien vous empêche de danser de façon dégenrée ». Oui, rien nous empêche de le faire. Sauf que, en fait, quand on est un mec cis PD et qu'on va inviter un autre mec cis à danser... et que très probablement il est hétéro, ben en fait, toute la façon dont il a appris les danses le légitime à lui dire non, et de façon pas forcément polie. Enfin, c'est quand même, le problème, c'est pas forcément de dire non, évidemment, on est pour une société pro-consentement. Mais en fait, la raison, c'est pourquoi il dit non, en fait. Est-ce qu'il dit non parce qu'il a pas envie de danser, ou est-ce qu'en fait, il dit non parce que danser avec un homme, pour lui, c'est impensable parce qu'il met d'autres intentions dans la danse, ou parce que tout simplement, il ne veut pas questionner l'hétéronorme qu'on lui a transmise. Accepter de danser avec un autre homme, ça veut dire remettre en question le cadre genré qu'on lui a transmis.
Pour moi, ce n'était pas du tout quelque chose de facile de venir à la danse. Et c'est vrai que la question de se voir opposer à un non pour des gens qui débutent, par exemple, et qui peuvent engager beaucoup d'eux-mêmes, il y a quand même un enjeu de présentation de soi et le risque un peu de perdre la face. Quand on a un nom qui est fort, dans la vie sociale, en dehors des règles que tu peux imposer ou discuter dans le cadre de la danse, ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. Et du coup, je pense que c'est vraiment important de discuter ça collectivement, de présenter les choses, de les discuter, de les amender collectivement pour que la règle elle soit vraiment partagée et connue. Parce qu'il y a vraiment quand même un enjeu social derrière.
Tout le système d'invitation, alors il a plein d'avantages, leur système d'invitation au tango. C'est plus tourné vers le non. Tout est facilité pour refuser la danse au tango. Et donc du coup, c'est très basé aussi sur le fait que l'homme ne veut pas recevoir de refus de plein fouet. Donc du coup, il s'invite par le regard. Mais du coup, c'est très, très basé sur les genres.
On s'est rendu compte qu'en fait, parfois aussi, on dit non toujours au même blanc. Et par exemple, on va dire non à des personnes qui ne sont pas dans les normes de beauté ou de blancheur ou de validité. Et du coup, c'était assez important pour nous de venir dire on va respecter son non. Donc si ça ne nous le fait pas de danser avec une personne à un moment ou de danser de telle manière ou tout ça, on va se respecter. Mais aussi, on va essayer de regarder un peu à qui on dit non d'habitude ou qui nous dit non d'habitude aussi. Je m'étais rendu compte, par exemple, que d'être passé de cheveux longs dans les balles à cheveux courts dans les balles, ça faisait qu'il y avait plein de gens qui ne m'invitaient plus, par exemple, qui m'invitaient avant. Mais je pense aussi de se poser la question à l'inverse, de dire qui, moi, je n'invite pas et à qui je dis non, c'est aussi des fois de se rendre compte que des fois, on dit non à des personnes plus âgées, des fois, on dit non à des personnes qui n'ont pas la morphologie classique, mince, blanche et avec les deux jambes. Et que ça, par exemple, c'est nos propres biais racistes ou validistes ou sexistes. À la fois, on va aussi venir réfléchir à c'est quoi nos pratiques. Comment on fait pour qu'il y ait plus de gens qui se sentent bien puis qu'en même temps, on fasse attention à soi-même.
J'ai remarqué un truc chez moi-même. Quand je proposais à quelqu'un de danser en tant que moi, follow, avant que je me fasse cette réflexion, je disais beaucoup « Est-ce que tu veux bien m'inviter à danser ?» Alors que c'était moi qui étais en train de l'inviter à danser, mais parce que j'étais dans une position de follow. Je me suis un peu scandalisé moi-même en m'observant faire et donc j'ai, j'ai, J'ai tenté de modifier ça, mais...
Je comprends qu'une dame de 70 ans ou un monsieur de 70 ans me dit « Moi, je suis un homme, je veux guider » ou « Moi, je suis une femme, je veux suivre ». Ça ne me semble pas anormal. Après, quand le discours il est de personnes qui ont 25 ans, j'en devrais quand même avoir dépassé ça. Bon, y a quelque chose qui m'énerve très profondément dans l'organisation du Lindy Hop. Et j'ai l'impression que du coup, comme les gens n'ont pas le regard par rapport aux autres danses, à ce qui existe dans les autres danses, ils pensent que c'est normal de s'inscrire obligatoirement en couple pour avoir une place. Ils pensent que c'est normal que les filles, elles aient des mois d'attente pour pouvoir rentrer un cours parce qu'elles n'ont pas de partenaire. Et souvent, ça veut dire que les femmes, elles vont devoir apprendre à guider.
Comment ça s'est fait ? Ben, je sais plus. Il y avait des groupes Facebook où on cherchait des gens cherchaient des partenaires pour faire leader ou follower. Et du coup, il y avait une fille qui cherchait un leader. Et j'ai dit, moi, si ça t'embête pas d'avoir une fille comme leader, je veux bien le faire, quoi. Les premiers cours, les gens comprennent pas parce qu'il y a deux filles à côté. Et puis même la prof, elle était là. Pourquoi t'es là ? Faut que tu trouves un leader. Et puis j'étais là, non, mais je me suis inscrite en leader. Elle fait, ah oui, c'est vrai. Puis du coup, il y avait tout le monde qui me regarde. Donc voilà, faut assumer, quoi. Et puis j'ai senti qu'il y avait des filles que ça gênait aussi. Et après, j'ai trop kiffé guider, quoi. Ouais, je l'ai vécu, vraiment, je prends le pouvoir, quoi. J'ai un objet avec lequel je peux jouer, quoi. Enfin, c'est trop... En fait, c'est génial, quoi. J'ai trouvé ça jouissif, quoi, de pouvoir guider quelqu'un comme ça, avoir une sorte de poupée qui obéit. Donc j'ai découvert, j'étais hyper macho, en fait, hein, que... qu'en fait, je supportais pas que la fille, elle soit libérée, quoi. Il faut juste qu'elle fasse ce que je lui dis, c'est très bien. Finalement, moi aussi, j'ai dû apprendre à accepter que la fille prenne de la liberté... pendant la danse, quoi. Donc ça, c'était drôle, quoi, de me rendre compte de ça, en fait. À notre époque, je pensais plutôt que j'allais avoir « Ah, mais t'as trop raison, pourquoi je me suis pas inscrite en leader, quoi ?» Et en fait, pas du tout, j'ai eu beaucoup de questions. « Ah, mais pourquoi tu fais ça ? Ah oui, mais du coup, si les filles font leader, alors les hommes, ils doivent faire follow. » Un leader m'a dit « Ah non, mais moi, que les filles fassent leader, ça m'est égal. Hein. » Ah, par contre, moi, faire follow, ah ! Comme si faire follow, enfin, c'était faire la fille, quoi. Et faire la fille, c'était... Ah. Pour beaucoup d'hommes, le rôle de la fille, c'est encore... c'est pas valorisant. Après, je suis devenue plus indulgente avec les hommes aussi qui dansaient. Parce que je me suis rendu compte que c'était super dur, en fait, hein, de guider. Faut avoir de l'imagination, faut anticiper, il faut écouter la musique. Ça demande beaucoup de concentration. Et j'avais pas forcément réalisé tout ça, quoi. On dit souvent que c'est les filles qui veulent danser, mais je comprends, parce que c'est vrai que quand on décide de se mettre à une danse, qu'on doit faire leader, c'est pas la même énergie, quoi. Je trouve que ça demande plus de concentration, quoi. Et dans l'idée de dire, je suis pour l'égalité homme-femme, tout le monde l'est, quoi. Mais quand il s'agit de le mettre en œuvre, c'est là où on se rend compte de tous les petits blocages qu'il y a dans nos têtes, en fait, à tous, quoi. C'est pas de la faute des hommes, entre guillemets, hein. C'est vraiment le rapport homme-femme... qui n'a pas encore assez changé pour permettre de choisir son rôle en toute liberté, quoi. On a l'égalité qui nous est reconnue des droits. Par contre, tant que cette égalité des droits n'est pas inscrite dans les corps, elle n'est pas vécue dans tous les aspects de la vie, en fait, et ben, y a toujours un risque de retour en arrière.
J'ai commencé à nommer les danses à deux comme des danses à deux et non pas des danses en couple. Parce que quand on dit danse de couple, moi, ça m'a fait penser déjà à forcément à une vinculation ou un rapport qui forcément lie la danse à une question sexuelle hétéronormée. Et qui efface un peu la notion des partages en tant qu'être humain, comme des personnes qui jouent avec la musique.
Le tango argentin, quand ça a été créé, effectivement, les hommes dansaient entre eux. C'est notamment parce que c'est une danse qui a été créée dans les bordels en fait, de Buenos Aires. Et les hommes allaient danser avec les prostituées, évidemment, mais du coup, il fallait savoir danser. Donc, comme il y avait beaucoup moins de femmes que d'hommes, du coup, ils apprenaient entre hommes pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir, quand ils invitent une femme, savoir déjà danser.
Évidemment, c'était historiquement un endroit où les hommes pouvaient y aller alors que les femmes y restaient à la maison. Bon, il y a des restes encore de tout ça. Après, autour de ça, il y a toute une culture, la façon de parler, même les mots dans les chansons, les morceaux de tango, des discours un peu misogynes. Et voilà, ça a commencé à changer. Il y a les tangos queer, il y a je ne sais pas combien d'années déjà. Mais ce n'est pas encore si développé que ça. Hein. En Argentine, la plupart des milongas sont encore des milongas traditionnels où tu vois pas autant de femmes qui dansent avec des femmes, des hommes qui dansent avec des hommes. Les femmes, elles sont toujours avec des talons. Si tu n'as pas de talons, ils ne t'invitent pas à danser parce que c'est comme un signe de savoir danser, ce qui est complètement stupide. Évidemment, ce n'est pas que dans les tangos, hein. C'est partout comme ça. Et les femmes, on est un peu dans les mandats de... être sensuelle en général pour être plus reconnue. Donc notamment dans le tango, les femmes, ils s'habillent de façon sensuelle en général. Hein. Pas partout dans toutes les milongas, mais dans les plus traditionnelles, tu vas voir beaucoup de robes, beaucoup de décolletés, des vins ou à l'arrière, et des maquillages, des bijouteries. Alors que les hommes, ils portent pas tout ça. Tu verras des chemises peut-être, des pantalons... Mais carrément, il n'y a pas une obligation, entre guillemets, hein, je dis obligation sociétale, de se voir, de devoir se montrer beau, comme pour les femmes.
Après, je suis souvent habillé en noir, parce que le noir permet de mettre en valeur en fait, la personne qui danse avec moi, et donc moi je disparais. Je suis juste le support. En fait, ce que j'aime beaucoup dans le tango, c'est que quand on est danseur, quand on est guideur, comment dire, c'est jamais... notre désir qui est montré, c'est notre désir qui passe par le corps de la femme et qui est exprimé par le mouvement de la femme. C'est pour ça qu'on voit la femme. Mais c'est une danse extrêmement frustrante pour le danseur. Mais ce désir que moi, je ne peux pas exprimer, elle, elle peut l'exprimer.
Sublimer l'image de la femme, c'est encore réaffirmer que les femmes, on est objet des regards en permanence. Et donc, ça oblige, ça nous oblige à répondre à cette expectative des beautés. On doit toujours être belle pour le plaisir des yeux des autres. Alors nous, en tant que femmes, on a grandi avec tout ça. Donc aussi à l'intérieur de nous, il y a cette partie où... on peut se sentir bien si on voit que les autres, ils nous voient belles ou sensuelles, ou si on attire un peu leur regard, ou etc. Tout ça, ça fait partie aussi de la même histoire. Et pourquoi nous, en tant que femmes, on continue à reproduire tout ça ? Voilà la complexité des... Et se libérer de la partie pénible hein, de tout ça. Après, si on joue avec la sensualité, si c'est un choix, c'est très bien aussi. Il y a des nuances, c'est complexe. Mais voilà, et pouvoir détacher, de se dire, ok, j'ai envie d'être sensuelle, j'ai envie de séduire, donc je l'ai fait. Ou je l'ai fait... parce que la société me demande de le faire, parce que sinon je suis pas considérée comme les autres femmes.
As Queer As Folk, c'est un collectif de personnes queer. Donc par queer, on entend les minorités sexuelles, sexuées et de genre, qu'on peut appeler LGBTIA, transpédéguine, etc., etc. Et en fait, on s'est monté autour de la danse folk ou la danse trad. Et du coup, la particularité de nos ateliers, c'est d'être dégenré, du coup, et d'être un espace féministe. Du coup, ça veut dire qu'on peut danser... entre hommes, entre femmes, entre les deux, qu'on peut guider et suivre quel que soit son genre, que c'est aussi un espace pro-consentement. Du coup, c'est possible de refuser une danse ou c'est bienvenu de bien recevoir un refus. C'est aussi un espace sans séduction, les moments d'atelier, parce qu'en fait, on veut que ce soit des moments où, qui soient destinés à l'apprentissage et pas des moments où on doit dealer avec des enjeux de séduction.
On a une affiche parmi nos affiches pédagogiques qui indique que la séduction, au final, c'est pas toujours bienvenu. Mais pour nous, en fait, la séduction, c'est pas quelque chose de bien ou de mal, mais c'est quelque chose qui doit pas être évident partout et tout le temps, et qui doit être délimité dans le temps et dans l'espace. Pour notre festival, on n'avait pas mis cette affiche-là, parce que pour notre festival, on a considéré que le cadre n'était pas forcément sans séduction. Mais par contre, dans nos ateliers, par exemple, c'est un point qu'on aime bien placer, c'est que c'est un atelier sans séduction. Et ça, c'est, on l'explique par le fait qu'on accueille un public qui est mixte, du coup, qui est composé à la fois de personnes queer, mais de personnes qui aussi qui ne sont pas queer.
Et on voulait que nos ateliers, ce ne soient pas ces enjeux-là qui s'y jouent, et qu'on se rencontre sur d'autres modalités que la séduction, aussi pour exclure personne, parce qu'en fait, la séduction, en fait, elle valorise les personnes belles, et elle entraîne des interactions qu'entre les personnes belles. Ce n'est pas ça dont on avait envie, en fait. On avait envie de créer un cadre où on puisse se sentir bien et se rencontrer sur d'autres modalités.
C'est vrai que nous, on n'a pas pensé à faire une charte. On a pensé à avoir ces affiches sublimes. Et en fait, on les a vraiment pensées parce qu'on se disait c'est des propositions, c'est de la matière à réflexion. Et c'est une manière aussi positive de présenter les choses, penser quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Alors de faire quelque chose en vrai, de quand même prescriptif, faut pas qu'on se mente. Mais de le présenter de manière à ce que les gens puissent s'en saisir plus facilement peut-être que si on avait vraiment dit « il faut faire ci, il faut faire ça ». C'est l'idée que si je dis « c'est plutôt ce genre d'ambiance qu'on veut avoir ici », alors les gens sont se mettent dans cette disposition-là. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de fait de ce genre d'échange. C'est déjà arrivé. Mais ça amène les gens à avoir une position d'office, de se poser la question. Alors que si je ne le pose pas, ce truc, ben en fait, les gens ils arrivent avec qui ils le sont. Et puis s'ils sont dans un mode de drague, alors c'est ça qu'ils vont faire. Alors que si je viens poser la question et dire « ben, c'est pas l'endroit pour faire ça », alors ça amène les gens à se dire « ah, dans quel mode je suis ?»
La danse dégenrée, comme on l'entend nous, c'est une façon de danser où on essaye de ne pas prendre en compte le genre des personnes. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans nos ateliers, c'est deux choses. Il y a la première qui est d'inverser les rôles, de proposer aux hommes de suivre, aux femmes de guider, aux femmes de danser entre elles, aux hommes de danser entre eux. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de trouver des formes de danse où on a carrément supprimé les rôles genrés. Ça fait qu'il n'y a plus une personne qui suit, une personne qui mène, mais ça peut être les deux personnes qui mènent. C'est ce qu'on appelle en danse à deux, c'est le co-guidage. Une position dans la danse qui permet aux deux personnes de proposer des pas, de proposer des choses, et chacun à leur tour, un peu en dialogue, où il y a quelqu'un qui propose, quelqu'un qui répond, puis il peut reproposer quelque chose, puis répondre.
Et en fait, dans le co-guidage, du coup, ce serait un peu comme dans la valse, sauf qu'au lieu qu'il y ait deux mains dans le dos et une main en l'air, enfin, toutes les mains sont dans le dos. Et après, en fait, la question du genre, dans les danses traditionnelles, elle se pose finalement pas que dans les danses à deux. Il y a aussi des danses en chaîne et des danses en ronde. Et dans ces danses-là, souvent, les façons dont elles sont transmises, il y a l'injonction à être un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme dans la chaîne ou la ronde. Même s'il n'y a pas de différence de pas, et même si ça n'a aucune influence sur la façon de danser, qu'on danse tous et toutes ensemble. Et quand c'est des chaînes, un homme qui guide et pas une femme, quoi. Alors c'est évidemment plus ou moins rigide suivant le bal, l'atmosphère, tout ça. Mais c'est des choses qui sont présentes et qui sont formellement transmises. Inverser ça, ça demande à quand même remettre en question ce formalisme-là. Et du coup, c'est aussi des choses, c'est aussi des façons de dégenrer qu'on propose.
Après, nous, sur le festival, on a mis en place un atelier sur consentement. Du coup, je l'ai fait, donc c'est pratique, parce que comme ça, je peux parler de ce qu'on a fait. Et on était à la fois axé sur savoir reconnaître quand on ne veut pas quelque chose, apprendre à dire non, et savoir reconnaître quand on ne vit pas bien quelque chose aussi. Parce qu'à des moments, nos warnings, ils arrivent trop tard. C'est-à-dire qu'on vit le truc, puis on est tellement habitué à être poli, sympa. Et du coup, c'est bien après la danse qu'en fait, on se rend compte qu'on a super mal vécu des trucs. Mais l'autre bout, c'était aussi, qu'est-ce que j'ai envie ? qu'est-ce que j'ai envie de dire, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, j'ai envie de danser de telle manière, j'ai envie de danser de pas de telle manière, j'ai envie de... Chacun, chacune, on a des envies différentes de danse et de manière de danser et de qu'est-ce qu'on vient chercher dans le bal et de aussi même des dispositions qu'on a sur le moment. Par exemple, à des moments, je vais avoir envie de danser hyper sportif, énergique, de sauter partout, etc. D'autres moments, j'ai envie d'être super langoureux, de y aller doucement, d'avoir vachement de sensibilité, d'être à deux plutôt. Enfin voilà. Et ça, c'est des envies qui sont différentes parfois dans le bal, au sein du bal. Et ça permet aussi ça d'aller chercher des partenaires avec qui on a envie de partager ça et à la fois de faire les bonnes propositions aux bonnes personnes, en fait, d'une certaine manière. Le bal, le folk, les espaces de danse. Déjà, c'est des micro-sociétés, mais aussi ça fait partie de la société. Du coup, ça veut dire que les rapports de pouvoir qui se jouent dans la société se jouent dans le bal et dans le milieu de la danse, quel qu'il soit. Du coup, ça fait qu'effectivement, dans un monde dans lequel plutôt c'est les mecs blancs qui ont le pouvoir, ben en fait, effectivement, ça ne m'étonne pas que dans la danse, on retrouve que ces enjeux de pouvoir se jouent à cet endroit-là. Et que la manière de réaffirmer le pouvoir, de le garder, passe par plein de choses. Et aussi par des formes de prouesses virilistes qui passent par avoir le plus grand nombre de partenaires dans la danse, mais de partenaires cotés. Donc c'est les partenaires qui sont jolis, les plus jeunes, celles qu'on va pouvoir former ou amener dans la danse. Et ensuite, on les jettera quand... elles seront moins intéressantes. Ça passe aussi par aussi l'accumulation de partenaires sexuels dans ce cadre-là. Je pense vraiment c'est ce truc de bah oui, à la fois j'ai plein de partenaires de danse, à la fois aussi c'est plein d'amantes. Donc c'est ce bout d'accumulation de comme de possession. Et là je mets des gros guillemets parce que moi, je ne crois pas que ce soit des possessions. Je crois qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas, on n'a pas à être possédé, mais que en vérité ça c'est vu comme ça, ce truc de en fait j'ai plein de partenaires qui sont à la fois des partenaires sexuels, à la fois des partenaires de danse. J'ai plein de gens qui célèbrent mes compétences de danseur, mes compétences de prof, des manières de parler fort, des manières de positionner une forme de cours un peu. C'est-à-dire je parle, puis les gens m'écoutent, et puis je suis au centre de tout, de prendre le parquet et de se mettre et de faire des prouesses dansées en baladant sa partenaire de tout un de manières. Je pense à des moments où on les appelait les marionnettistes. Je pense que ça, c'est les formes de prouesses virilistes, par exemple, de montrer qu'on sait faire le, je sais pas combien de passes, puis des portées, puis des trucs où on tourne, nanana. Et le dispositif qu'on amène, je pense, permet aussi de se poser ces questions, de dire, mais en fait, qu'est-ce qui est effectivement des rapports de séduction qui sont plutôt chouettes et qui permettent à plein de personnes différentes d'avoir ces rapports de séduction sans se sentir forcées, etc. Et qu'est-ce qui sont des pratiques, en fait, qui sont juste désagréables à vivre, fatigantes Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, juste ne serait-ce que poser la question ou mettre des choses même en affichage sur les murs, ça, je pense, provoquer des choses assez intéressantes.
La danse traditionnelle, elle doit rester populaire et du coup, elle doit s'adapter aux enjeux actuels qui nous traversent. Et en fait, il y a des enjeux queer et il y a des enjeux féministes qui nous traversent. Et en fait, on n'est pas en train de changer les danses, on est en train de changer les codes, les relations, mais pas les danses.
Et je pense aussi que c'est important de dire qu'il n'y a rien de naturel ou de déconnecté dans aucune forme de danse. Et à chaque fois, la danse, elle existe dans une société, dans une époque. Et tout ça, ça implique qu'il y a déjà des règles, il y a déjà des sortes de chartes non dites dans les festivals.
Et voilà, on change. C'est intéressant de voir comment ça se transforme les personnes, mais les milieux de la danse se transforment aussi, hein. Parce que justement, toute la question du genre est en train de se mettre en cause. De façon générale, les sujets du féminisme, tout ça, c'est plus sur la table qu'il y a 10 ans. Mais ce rapport des forces, il est partout. Hein. Ce n'est pas qu'il y ait des agressions sexuelles. Hein. La chaîne des violences, elle est longue et... dans les moindres les petits gestes. Donc voilà, dans la danse, évidemment, tu peux voir aussi ces rapports de genre. Ça prend du temps, mais il faut avoir de l'espoir. Ça va prendre quelques générations de nettoyer un petit peu, mais ça va venir. Alors...
Alors, qui dit
travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse.
La danse est une aventure de 3 minutes. Elle peut prendre un visage amoureux, politique, complice ou violent, mais jamais insignifiant. Des dizaines d'histoires singulières qui nous rappellent que c'est parfois la vie même qui nous brûle et qui danse.
C'était juste la première fois, la surprise.
Sa posture.
Il n'y a pas de danse ratée avec toi.
Moi, c'est un acte qui est déjà rébelle.
J'ai plein de partenaires qui sont à la fois des partenaires sexuels, à la fois des partenaires de danse.
C'était Mais si on danse, des rôles et des genres, un documentaire en 3 épisodes, écrit et réalisé par Julien Mondon, accompagné de Lorraine Toulin. Montage Julien Mondon, mixage Pierre Devalet, avec la voix de Lorraine Toulin.
Si jamais il y avait une sexualité...
On ne voulait pas se dire au revoir.
Ça devrait être tout de suite, là.
Remerciements aux associations Garden Swing, Kansas Swing et Studio Hop. À Claire Aubert, Roxane Marquand, Laure Franquès, Nathalie Léglise et Anaïs Nguyente. Ce projet est soutenu par le Fonds Gulliver, une initiative de la RTBF, la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SACD Belgique et France et la SCAM Belgique et France.
Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors Eh ben y'en a encore.
C'est le dernier épisode du documentaire radio « Mais si on danse » que vous pouvez retrouver également en ligne. Vous pourrez retrouver la rediffusion de ce dernier épisode ce soir, probablement aux alentours de 22h. Merci beaucoup encore à Radio Quetch pour couvrir ce festival, le Brock Swing, juste à côté du château de Morimont. Il règne toujours une ambiance très très paisible, beaucoup de musique douce, de gens qui mangent dans l'herbe au soleil, beaucoup de bienveillance. Merci à toute l'équipe. De notre côté, nous reprendrons l'antenne probablement aux alentours de 15h pour une rencontre avec Claire Lurin de la compagnie Lénaire. Elle a animé hier sur le festival un atelier de connexion dans la danse à travers des outils de circassienne et de danseuse contemporaine. Donc on la rencontrera tout à l'heure. Également, nous diffuserons un reportage réalisé par Manuela, qui est bénévole à la Radio Quetch, qui est venue, qui nous a fait le plaisir de nous rendre visite hier soir. Et qui a eu des discussions fort intéressantes et donc elle nous les a laissées pour diffusion cet après-midi durant le festival. Merci Manuela. Donc ça, ce sera entre 15h et 16h30. On se retrouvera à 17h15 également pour une rencontre avec le collectif Matière Vivante, Ce collectif était présent sur tout le festival avec leur caravane dédiée à la prévention des violences sexuelles et sexistes en milieu du bal et dans la société en général. Mais comme ce sont des danseuses et des danseurs qui participent à ce collectif, c'est principalement tourné vers les pratiques des bals. Hier, le collectif nous a proposé une représentation de théâtre forum, donc cette pratique où on met en place des situations et on cherche des solutions en modifiant la scène. Donc on pourra en parler tout à l'heure avec le collectif. Ce sera entre 17h15 et 18h. Je vous laisse l'antenne. Je crois que nous avons une émission qui va démarrer, Métaclassique, dans 5 minutes. Je vous laisse avec un petit peu de fond sonore de l'initiation au Lindy Hop actuellement au festival Brockswing à Morimont. À tout à l'heure.